Bien, Madame la Macombe, quel était l'état du monde pendant ces 7 jours? Dieu intervient pour se laisser deviner derrière son incognito. Le soleil ne se lève plus à l'est, il se lève à l'ouest. Bien. Je vais faire une toute petite analyse des fondements du déterminisme dans la science contemporaine. En fin de compte, et un des arguments d'ailleurs des empiristes, qui est à sa place ici surtout, je pense, c'est ceci. C'est que cette loi qui est que le soleil se lève à l'est, c'est une loi scientifique absolue. Mais qu'est-ce que ça signifie? Que jusqu'à présent, il s'est levé à l'est. J'ai un acte de foi qu'on appelle l'induction en français. J'induis, c'est le contraire, l'inverse de la déduction, pas le contraire, que demain aussi se lèvera à l'est. Mais j'en sais rien. Vous reconnaissez? C'est un acte de foi au déterminisme des lois de la nature. Nous avons une. Ici, j'emploie l'analyse des empiristes. Les rationalistes s'expriment un peu autrement. Mais nous avons une telle conviction qui vient de la répétition, qui vient de l'habitude, de la familiarité, que nous sommes absolument certains que c'est vérité a priori, comme dirait les rationalistes, qu'il ne peut pas se lever à l'ouest. Alors si jamais il se lève à l'ouest, ça donne à réfléchir. Voilà, c'est ça qui se passe dans cet enseignement-là. C'est clair ? Vous avez bien compris cela ? Bon. Alors, je vous donne un petit exemple. On a trouvé des fossiles de charbon au pôle Nord. Okay. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pôle Nord a été une fois l'équateur. Ça veut dire que le pôle Nord a été une fois l'équateur. C'est pas qu'on appelle ça les fougères, okay, qui donnent les fossiles de charbon, puis le pétrole, puis les pétrodollars. Alors qu'est-ce que va faire du charbon au pôle Nord? Il faut une forêt tropicale pour qu'il y ait du charbon à la longue. C'est clair? Donc ça veut dire que le pôle Nord a été une fois l'équateur. Et si vous faites basculer la Terre de cette manière, le soleil se lève à l'ouest. C'est pas plus compliqué que ça. Bon. Alors, ça veut dire que il y a eu un doute qui a été proposé à ce principe. Vous n'avez aucune idée à quel point c'était une orthodoxie. Je crois qu'il y a que les philosophes marxistes qui sont orthodoxes de cette manière, dont les prêtres de l'idolâtrie, du déterminisme astrobiologique. Hein. Vous arriverez par exemple quand on étudiera les rêves du pharaon, des rêves simples que Joseph arrive à décrypter parce qu'il est hébreu, et le pharaon n'arrive pas à comprendre ses propres rêves. Qu'il puisse y avoir un dérèglement dans le plan quinquennal de l'agriculture égyptienne. C'est-à-dire une orthodoxie déterministe absolue. Aujourd'hui, ce sont les spécialistes marxistes qui fonctionnent comme ça. Ils ont des plans d'après leurs connaissances scientifiques de l'agriculture de leur pays, et si ça ne marche pas, le fonctionnaire qui était responsable passe en camp de concentration. Vous connaissez ça, hein? C'est la réalité qui se trompe. C'est une mentalité orthodoxe, c'est épouvantable. Il n'y a pas de pire orthodoxe qu'un marxiste. Il y a les orthodoxes. Et alors, méfiez-vous de cette mentalité-là, c'est la sclérose spirituelle absolue. Incapable de voir la réalité comme elle est, qui a un principe de liberté. C'est clair celui-là. Alors voilà pour le premier point. On va tout de suite, corollairement, essayer d'entrevoir le diagnostic pour le temps contemporain. Eh bien, il y a quelque chose de très analogue qui se passe. J'entrerai pas dans les détails, mais les savants modernes commencent à entrevoir que peut-être le principe du déterminisme n'est pas aussi absolu qu'on le croit. J'en dirai pas plus, parce que nous sommes dans une sorte de sécurité intellectuelle à l'abri du déterminisme. Je suis tranquille, le soleil se lèvera à l'est demain aussi. C'est une tranquillité de sécurité intellectuelle. Donc, découvrir que peut-être, c'est pas évident, il vaut mieux ne pas trop y réfléchir. Mais enfin, il n'y a pas de doute que la science moderne, contemporaine, faites bien attention, vous apprenez à l'école ou dans les universités ce que vos professeurs ont appris quand ils étaient jeunes. Vous voyez comment ça va vite. Alors, commence à entrevoir cela, que et le principe du déterminisme est peut-être pas si absolu que ça. Encore une fois, j'en dis pas plus. Il y a quelques années, j'ai participé à un colloque à Cordoue. Je sais pas si vous en avez entendu parler, c'était la radio française qui l'avait. Ça vous dit quelque chose? Ça s'appelait Science et Conscience. Non, ça vous dit rien, c'est vrai. Il y avait des savants du monde entier, et les communications qu'ils ont faites, des savants japonais, américains, russes, enfin du monde entier. C'était assez ahurissant. Dans toutes les sciences, on a des expériences nouvelles, modernes, qui montrent que le déterminisme, on n'y comprend plus. Bon, Je dirai pas plus. Simplement, je vous raconte une anecdote. D'ailleurs, la radio française avait mis comme illustration de l'affiche de ce colloque Science et Conscience un énorme bouquin qui est apparu comme ça. Ça vous dit rien? C'est ça. Einstein d'un côté, Maïmonide de l'autre. Et alors, alors ça s'est fait à Cordoue en honneur à Maïmonide. Et vous savez peut-être que cette année, c'est le 850e anniversaire de Maïmonide. Il y aura d'énormes manifestations dans le pays, partout, et à Cordoue. Alors, quand je devais faire mon exposé, le président de séance était le maire de Cordoue. Je vous ai raconté ça? Ça s'appelle un Alcadé ou un Cheoukazé. Il a cité tous les grands hommes de Cordoue, sauf Maïmonide, en espagnol. Je ne savais pas où me mettre. Vraiment, je ne savais pas. Et finalement, j'ai eu l'idée de génie. J'ai commencé mon exposé en disant que je remerciais chaleureusement le maire de Cordoue de m'avoir laissé le privilège de parler de Maïmonide. Si vous avez vu un espagnol blême... C'était ce jour-là. Bon, je reviens au problème. Voilà pour la première dimension. C'est clair? Et je pense que chacun d'entre vous, dans sa vie culturelle, a dû avoir des échappées de cela, ne serait-ce dans des revues scientifiques, même de vulgarisation. Okay? Et alors, il y a un tabou là-dessus, et qui est un tabou qui est très compréhensible. Parce que si on met en question le principe du déterminisme dans la civilisation contemporaine, on va affoler tout le monde. C'est clair? Vous avez compris le problème? C'est-à-dire qu'il faut une capacité morale très grande pour supporter cela. C'est clair? Bon, alors, toute cette étude, on l'a fait en philosophie élémentaire classique, c'est le problème du fondement de la loi de nature, du fondement du déterminisme. Vous avez bien compris? C'est-à-dire, au fond, rien ne nous autorise à affirmer pour demain ce que nous ne savons de sûr que pour hier et avant-hier. Sinon, une espèce d'intuition qui ne peut pas en être autrement. Mais cette intuition, c'est un acte de foi. C'est bien clair? Bon.
Pourtant, vous avez dit que le déterminisme était nécessaire pour exercer son droit.
Absolument. Et c'est justement la raison, vous allez comprendre pourquoi il y a cette compensation. Que dans ces 7 jours, Dieu va donner une compensation, une perche. Parce que c'est le déterminisme qui est nécessaire, mais qui entraîne ce piège qu'on oublie le Shabbat, qu'on oublie qu'il y a un créateur. Alors de temps en temps, il faut un petit clin d'œil pour nous rappeler ça. En général, ces clins d'œil déclenchent des catastrophes. Vous remarquez dans les récits de la Bible. Tous les récits de l'intervention de Dieu avant la fin des temps, c'est des catastrophes. C'est clair? Par exemple, le déluge. Par exemple, la sortie d'Égypte. Tant qu'on n'a pas mérité, c'est dangereux. Alors, de temps en temps, il est nécessaire que ça se dévoile parce qu'on risque de tomber dans un échec plus grave. C'est ce qui se passe, là. C'est clair? Je vous donne un exemple. Vous avez l'ampoule électrique. Si vous faites passer un courant trop fort, elle éclate. Par conséquent, tant que l'ampoule, le véhicule de réception, n'est pas suffisamment fort, c'est-à-dire... pur, pour pouvoir recevoir le trop plein de lumière, c'est dangereux. Alors la lumière se cache, se tamise, jusqu'à ce qu'on puisse la recevoir. C'est clair? Tu as compris pourquoi? Dans l'univers de la Bible, dans l'atmosphère du monde de la Bible, on ne s'attend pas au miracle. C'est exceptionnel. Et on en a peur. Pourquoi? Ben parce que, vous vous rappelez le pied de table en or? Vous vous rappelez?
Alors qu'on devrait, en un sens, on devrait pouvoir aussi parvenir à s'en réjouir, en un sens.
Se réjouir de quoi?
Je sais pas, mais quand on lit le début, j'en lis toujours, je le lis toujours, c'est pas comme un épisode dramatique.
Mais c'est catastrophique.
Mais en même temps, c'est quelque chose qui devrait nous renforcer.
Oui, si j'ai bien compris, ça veut dire quand quelqu'un reçoit un coup, il est content parce qu'il dit « au moins on s'occupe de moi ». C'est ça? On a posé la question au rabbin du Talmud, quand ils avaient des issourines, c'est des malheurs, des souffrances. Et alors ça te fait plaisir, tu vas avoir un grand salaire avec ça. Il garde ça et son salaire. L'oreille de l'Osraran, on aurait aimé que ça se passe autrement. Mais faites attention. D'un côté ça rassure, il y a un juge. Bon, mais c'est épouvantable, un juge pareil. C'est mafhid, comme on dit en français. C'est terrifiant. Vous comprenez? Je vais le dire autrement. Alors c'est sérieux. Ah bon, c'est sérieux. Bon, c'est sérieux. Vous voyez la différence? C'est grave, c'est sérieux. Bon, c'est clair. Bon, vous aurez quand même à manger tout à l'heure, le soleil se lève toujours.
Qu'est-ce que tu veux dire ? Est-ce que Dieu ne savait pas, en fait, que l'identité n'allait pas changer pendant ces 7 jours ?
Ça, vous apprendrez plus tard. Là aussi, tu es sur le bord d'un énorme problème. Il y a une chose que Dieu s'interdit de savoir. C'est comment l'homme va réagir moralement. Tout le reste, il le sait
avant. Il veut, mais
il s'interdit. Sinon, l'histoire du monde n'aurait pas de sens. Ça serait une... Quand on joue à la roulette, comme on dit, avec une martingale, quoi. Et vous comprenez ce que je veux dire ? Si on a un jeu, mais on connaît la règle, alors c'est pas juste. Il faut que la règle ne soit pas connue. Alors l'homme ne sait pas quel est le problème qu'il a à résoudre, et Dieu s'interdit de savoir comment l'homme va bouger les pieds. On a des rendez-vous. Ça ne veut pas dire qu'il ne le sait pas, il n'en tient pas compte. C'est clair ?
La notion du libre arbitre et le libre humain, elle n'est pas au niveau de Dieu. Quand vous dites que Dieu s'interdit de savoir ce que fera l'homme,
regarde, on étudiera ce problème, mais je vais dire juste une phrase. Il faut attention, c'est un problème très sérieux, très grave. Ça veut dire pour que le libre arbitre soit réel, effectif, que c'est pas une façon de parler, il faut que Dieu s'interdise de savoir comment je vais décider. Ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas, mais il s'interdit de savoir. Vous comprenez ? Parce que sinon, on ne comprend plus le jugement. C'est clair ? Alors faites bien attention. Vous allez découvrir que l'idée de Dieu, dans le récit biblique en hébreu, ça n'a rien à voir avec ce que vous apprenez à l'école. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il faut se débarrasser de clichés philosophiques qui viennent en général, d'ailleurs, dans le temps contemporain, surtout des philosophes de l'encyclopédie. Diderot, Voltaire, d'Alembert, c'est eux qui ont formé les enseignants du primaire et du secondaire en France, les instituteurs. Alors méfiez-vous de ces clichés théologiques, il faut savoir qui est le Dieu de la Bible. C'est beaucoup plus simple qu'on pourrait le supposer, seulement il faut se désintoxiquer de toute une intoxication. On se désintoxique, cassion. Alors je reviens au problème. Ça va jusque-là pour la première dimension. Okay, j'aborde la deuxième, qui est la rigueur. Alors, la deuxième dimension, c'est Ben Adam la Haver. Là, c'est cet enseignement qui a mis en évidence qu'on a découvert qu'un juste, ça peut exister. On l'a dit, mais touchez là, un juste, un sadique. Okay. On a entendu dire, mais touchez là, est mort. Quoi ? Ce sadique, 7 jours de deuil. Et là, il y a des hommes que l'on. Il y a la rencontre avec certains hommes donne un sens au monde tout entier. Et je vous décris une expérience. Il faut que le monde ait un sens, ne serait-ce que pour eux. Alors si le monde a un sens pour eux, il a un sens tout court. Dieu fait découvrir à l'humanité que le tzaddik, ça existe. S'il y a un tzaddik dans ce monde-ci, ce monde-ci est un monde important. Vous comprenez ? C'est-à-dire la découverte à travers la dignité de la vertu d'autrui, que le monde qui a été créé pour l'autre, c'est aussi le monde qui a été créé pour moi. Par cette expérience-là. Et je vais vous en donner un exemple. Vous avez compris l'idée ? Je reviendrai une fois, parce qu'il y a un enseignement du Talmud très important là-dessus, sur ce thème. C'est-à-dire, il y a des hommes à côté de qui tout est beau, tout est clair, tout est. Dès qu'on les quitte, on retombe dans un enfer. Okay, vous avez remarqué ça? Ça, c'est le tzaddik. Et dans le monde des chassidim, cette expérience est une expérience très, très riche, très, très quotidienne, très, très banale. Mais c'est une expérience qui existe dans toutes les communautés. Les chassidim ont un tzaddik. C'est pas forcément le rabbin. C'est pas forcément le rabbi de la communauté. Okay. Mais c'est quelqu'un à côté de qui le rabbi lui-même est rassuré. Si cet homme-là existe, tout ce que la Torah a raconté, c'est vrai. Vous comprenez ce que je veux dire, hein ? Est-ce que c'est clair ? On verra une fois un texte du Talmud là-dessus, comment il explique ça pour Moïse. Et je vais vous donner un exemple, on pourrait avoir d'autres, mais qui m'a beaucoup frappé par son échelle universelle. C'était la mort de Jean XXIII. Vous vous rappelez qui a été le pape Jean XXIII, hein, qu'on appelait le bon pape. C'est comme ça qu'on l'appelait, je crois. Le bon pape Jean XXIII. D'ailleurs, je l'ai connu personnellement quand il était cardinal. Et puis, Je me rappelle très bien, vous êtes encore un peu jeune pour ça, mais peut-être vous vous en rappelez, les journaux du monde entier, pendant 8 jours, ont fait le respect du pape Jean XXIII. Mais touchez là. Ça s'est passé comme ça. Même, je me rappelle très bien, ce qui m'avait frappé, c'est que les Chinois avaient fait une grande louange de Jean, imaginez, les Chinois, le pape. Et le monde a été secoué. Et 8 jours après, tout le monde est retourné à ses affaires, on a continué à construire la bombe atomique comme si rien n'était. Hein. Mais pendant 8 jours, on a eu cette expérience-là. Vous vous rappelez de cela? Voilà un exemple. Comment ça se passe dans le temps contemporain? Ne me faites pas dire que j'ai dit que Jean XXIII s'est touché là. Hein. J'ai pas dit ça. Bon. Et je pense d'ailleurs que si ce pape avait vécu, il y a une légende, je ne sais pas si c'est une légende, vous me direz, vous en saurez plus que moi, qu'on l'a assassiné, je ne sais pas si c'est vrai, mais si ce pape avait vécu, énormément de choses auraient certainement changé dans le monde. Vraiment, c'était un pape trop gênant pour l'état de l'humanité. Bon, les gens préfèrent des papillons. Quoi. Et alors, je reviens au... Enfin, des soupapes, quoi. Je reviens au problème. Parce que celui qui lui a succédé, c'était Paul VI, je crois. Oui. Et après, il y a eu Jean-Paul Ier. Maintenant, c'est Jean-Paul II. Et Paul VI a été le dernier pape romain. Et il est mort le jour de Tisha B'Av. On l'a enterré le jour de Tisha B'Av. Et il y a un midrash comme ça. Que le prince des Ahus sera enterré le jour de Tisha B'Av et c'est le dernier pape romain. C'est une coïncidence. Après, ils ont essayé d'en élire encore un romain. Il n'a pas tenu à moi. C'est Jean-Paul Ier. Lui, je crois qu'on l'a vraiment assassiné, d'ailleurs. Oui. Et on a enterré le jour du jeûne de Gdalia. Et on s'y a mis dans la Bon, alors je reviens au problème. Bon, je reviens à notre problème. Vous voyez donc dans cette deuxième dimension. C'est-à-dire, c'est vraiment une expérience choc qui aurait pu permettre un revirement. À travers ces 8 jours du deuil de Jean XXIII, on aurait pu se dire, bon, tous ces rois de la terre, les empereurs, les premiers ministres qui se sont groupés pour ses obsèques, comme on dit, bon, peut-être qu'ils vont se prendre au sérieux et toutes les prières qu'ils ont fait ce jour-là, ils vont en tirer les conséquences. Et peut-être. Non, pas du tout. 8 jours après, on revient, chacun avec sa raison d'état, chacun avec son problème de fabrication des armes. Vous voyez ce que je dis. Vous voyez donc, j'essaye de vous diagnostiquer comment ça se passe dans le monde, ce que dans le Midrash parle. C'est quelque chose d'analogue. Et enfin, il nous reste le troisième. Benazam le Hatzmo, c'est la dimension où l'homme a vu quel monde lui avait été promis et ce qu'il risque de perdre. Et même ça, ça ne reste à rien. C'est clair? Le nectar, l'ambroisie, vous voyez ce que je veux dire? Bon. L'hydromène. Et comment ça se passe dans la civilisation contemporaine? Eh bien, il n'y a pas de doute que c'est une civilisation de l'abondance. Il n'y a jamais eu autant de gadgets dans les cuisines et dans les poubelles que de notre temps. Vous voyez ce que je veux dire? Imaginez un Shabbat au XXe siècle. On peut boire glacé grâce au frigidaire. Okay. Et on peut s'éclairer grâce au charbon électrique. Bon, ça veut dire qu'il y a une espèce d'explosion de la technique qui fait que vous avez 70 sortes de chocolat multipliées par 1000. Okay. Vous avez combien de sortes de fromage? Imaginez l'abondance. Okay. Sur un fond d'immoralité totale. Alors, c'est à peu près la même chose. On peut déjà entrevoir un monde où il n'y aurait plus de budget militaire. Et alors on corrigerait une détermination de la nature que c'est en été qui fait chaud et en hiver qui fait froid. C'est pas si grand, mais non seulement c'est l'été, mais il fait chaud. Et non seulement c'est l'hiver, mais il fait froid. On aurait le chauffage central dans les rues en hiver. Je rêve, hein, je rêve pas. Le chauffage central dans les rues en hiver et les ventilateurs en été. Ça pourrait être. Et à quoi on passerait son temps? À étudier. C'est clair? Ça va? Eh bien voilà, tout ça, on est en train de le rater parce que les possibilités de l'abondance sont là, mais c'est sur un fond d'immoralité totale. Je ne sais pas si je vous ai parlé de cet exemple qui est très important dans le temps contemporain. C'est la faim dans le monde. Ah oui, je vous ai parlé à propos des surplus, okay, de la morale du surplus. Vous vous rappelez de ça? Bon, il n'y a pas de doute, je répète l'analyse, il n'y a pas de doute qu'il y a suffisamment de capacités techniques et scientifiques pour construire un paradis sur Terre. Qu'est-ce qui empêche? Et donner à manger à tout le monde, à sa faim et tout le reste. Qu'est-ce qui empêche? Le manque de moralité. C'est clair? Bon, c'est quelque chose de très analogue à ce qui se passe à la fin de cette époque. Voilà, on a fini avec le, l'humanité de Noah Ken.
Vous avez dit à propos justement de ce troisième point que le monde était plein de bracha.
Moi, je ne l'ai pas encore dit. Je ne pense pas l'avoir dit. Ou alors, rappelle-moi le contexte.
Ben justement que le monde était plein d'abondance.
Ah oui, j'ai dit abondance.
Oui,
je n'ai pas dit bracha.
Vous avez dit aussi bracha.
J'ai dit aussi bracha.
Je voulais savoir ce que vous aviez entendu par là.
Premièrement, abondance. Ce n'est pas le vrai sens de bracha encore, hein, mais premièrement, abondance. Il y a un mot intraduisible en hébreu, en français, d'un mot hébreu, c'est shefa. Shefa, c'est plus que l'abondance. C'est l'abondance de qualité. Shefa. Essayez de vous imprégner de ce terme. Une sorte de flux de bénédiction. Donc, c'est dans le cours de la tefila, encore cette semaine, qu'on va étudier qu'est-ce que c'est que la bénédiction. Un monde, vous pouvez relire énormément de, dans la littérature, vous avez énormément de poètes qui ont entrevu cela. En général, la poésie occidentale, surtout contemporaine, est très pessimiste. Je ne sais pas si vous avez dû remarquer ça. C'est une culture de la désespérance. Depuis à peu près, Pierre Loti, les désespérés, les désenchantés. Ça vous dit quelque chose, une espèce, hein? Oui, déjà avec la romantique, mais c'est surtout là. Que ça apparaît. On aura l'occasion d'apprendre pourquoi quand on étudiera l'évolutionnisme d'ailleurs. C'est le temps d'ailleurs où on a commencé à inventer ces doctrines évolutionnistes. Il y a un désenchantement. Pourquoi je vous parle de ça? Qu'est-ce que j'ai dit juste avant? Hein? À propos d'une question de toi, c'était laquelle? Ah oui, oui. C'est-à-dire, mais vous avez. Non. Toute la littérature de toutes les traditions, les poètes qui entrevoient un monde qui serait mis au point, pas détraqué comme il est. Okay. Et encore une fois, comme je vous ai dit déjà au début de l'heure, c'est le monde de l'enfant. Et ensuite, on devient adulte, et on contracte les maladies des adultes, par exemple l'adultère, c'est la maladie des adultes, et puis on oublie tout ça, on ne se rend pas compte, on croit que c'est le monde détraqué qui est le monde vrai. Voilà, c'est clair? Alors une fois, on voit un monde tel que il devrait être, c'est-à-dire le monde de l'abondance. Je suis en train de m'asphyxier. Et ça devrait pouvoir faire réfléchir. Or, ça n'a même pas fait réfléchir. Voilà, on a fini avec ça. C'est clair? Alors vous voyez, d'étape en étape, nous avons suivi d'une part l'histoire des sursis, de leur échec, et en même temps, grosso modo, parce qu'il n'y a là qu'une analogie, j'ai essayé de vous montrer comment ça se développe dans une civilisation qui va à l'échec. Je reprends ce que je disais hier. Est-ce que la civilisation contemporaine va à l'échec? Je ne sais pas. Je sens que oui. Donc ne vous basez pas là-dessus. Okay, vous avez le droit d'être optimiste. Mais enfin, objectivement, bien qu'il y a toujours une chance, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, etc., tout ça c'est vrai, je parle de la civilisation globale, objectivement, on ne peut pas ne pas être affolé de l'état des choses. Là, il y avait un auteur allemand qui a écrit entre les deux guerres, qui s'appelait Splenger, Oscar Splenger. Il a écrit un livre, je vous conseille de le lire si vous le trouvez dans une bibliothèque, déjà entre la guerre de 14 et la guerre de 39, un livre qui s'appelle « Le déclin de l'Occident ». Une espèce de démission de la culture occidentale qui est très très néfaste parce que sa morale humaniste elle-même est devenue d'une hypocrisie politique colossale. Vous comprenez le point? Par conséquent, moi personnellement, j'ai vécu cette période et cette période qui s'appelle Auschwitz et Hiroshima, et quand on a vécu ça, vous vous entendez parler, on lisait ça dans des journaux, dans des livres. Okay. Et quand on a vécu ça, et qu'on sait qu'il n'y a pas eu d'aveu après, personne n'a demandé pardon à personne, alors il y a de quoi être un peu inquiet de la civilisation en question. Ceci dit, pendant ce temps-là, se produit un événement colossal, la muraille est tombée entre les Juifs et Israël, le monde entier en est secoué, ça c'est optimiste, c'est clair? Comment c'est le chant national d'Israël? La Tikva, par hasard. Hein? Vraiment par hasard, coïncidence. Quand on demande au peuple juif, tu veux un chant national, comment tu vas l'appeler? La Tikva. C'est clair ? Qu'est-ce que ça veut dire la tibouin ? Espérance. L'espérance, c'est plus que l'espoir. Et ce qu'il y a de très frappant, c'est que la mélodie sur laquelle est le chant de la tibouin, c'est une mélodie des gitans, des bohémiens. Non, c'est une mélodie tzigane. Et qui fait, lit le sort des bohémiens et des juifs pendant la guerre. Mais ça s'est passé comme ça, ne croyez pas qu'on a calculé. De la même manière pour les couleurs du drapeau juif. In extremis, au moment du congrès de Bâle, on s'est aperçu qu'il fallait un drapeau, puisque les goyim ont des drapeaux. Personne n'avait pensé à ça, un drapeau, imaginez. Alors il y avait le secrétaire de Herzl qui avait son talit, qui venait de sortir de la synagogue, son talit bleu et blanc, et il l'a mis devant le balcon, et il dit voilà le drapeau d'Israël. Et pourtant, il se révélera, vous allez l'étudier, que le bleu et le blanc, c'est pas pour rien que c'est comme ça. Et Jeanne d'Arc aussi avait un drapeau bleu et blanc. L'étoile vient de David. Et alors. C'est un symbole juif très tardif, les derniers siècles. On a pris l'étoile parce que les anti-juifs avaient pris l'étoile pour désigner les juifs. Et alors, c'est assez frappant de voir comment, du fond de l'identité d'un peuple, apparaissent les thèmes importants. C'est-à-dire, pourquoi finalement le gouvernement provisoire d'Israël a choisi la Tikva parmi tous les poèmes. C'était un kibboutznik qui a écrit ça dans une petite revue de poèmes israéliens. On dit, bon, on va prendre celui-là, pourquoi ? Et je vous garantis que personne n'avait dans la tête, ah, parce que c'est la Tikva. Non, c'est arrivé comme ça. Et pourquoi bleu et blanc ? C'est arrivé comme ça. Top. Ça va jusque-là ? Voilà. Alors, je crois qu'on a fini avec cette période. J'ai quand même 10 minutes, je ne vais pas commencer le cours de la prochaine fois. Alors, si vous avez des questions, en 10 minutes. Et moi j'ai une supplique qui va m'apporter un verre de vie. Pourquoi toujours bien ? Bien dit.
Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a eu des temps plus moraux que d'autres ? Des temps plus moraux.
Voilà, bon, là on a fini le cours, hein, on pense tout. L'impression que j'ai, c'est que y a eu des temps où, même si à l'échelle des individus, les hommes avaient des problèmes avec leur conscience, ils admettaient que le bien c'est le bien et le mal c'est le mal. Ça c'est des temps de moralité élevée. On admet que le bien c'est le bien, le mal c'est le mal. Nous vivons dans un temps où le bien n'est plus le bien, le mal n'est plus le mal, tout est mélangé. A n'est plus B, sauf chez les abbés. Vous comprenez ce que je veux dire ? Alors ça c'est un temps d'immoralité profonde. C'est des temps de mensonges. Par exemple, pendant la guerre mondiale, pendant le nazisme, il n'y avait plus de référence de système de valeurs claires. On faisait dire aux mots le contraire de ce qu'ils voulaient dire. Alors, il n'empêche qu'à l'échelle individuelle, il peut y avoir une impression de progression morale à l'échelle individuelle, c'est tout. Mais à l'échelle collective, probablement le Moyen-Âge était beaucoup plus moral que le XXe siècle. Au Moyen-Âge, on savait où était le bien, où était le mal. D'ailleurs, le Moyen-Âge a été calomnié. C'était un temps de grande sagesse en Occident, de grande sagesse. Mais dans des cercles privés, une sorte d'élite. Il y a un historien de la philosophie qui a émigré au Canada après le temps de Vichy. Je crois qu'il a dû mourir. Il s'appelait Henri Gilson. Ça veut dire quelque chose ? Un spécialiste du Moyen-Âge, il a contribué à réhabiliter ce qui s'est passé dans le Moyen-Âge en Europe. C'est par exemple un temps où les élèves de Vachy étaient anoblis par les rois de France. Vous avez un éthosaphiste, un élève de Vachy, qui s'appelle le sire de Coucy. Il y a le sire d'Alençon, dans la Gemara, hein, je vous montre. Ils étaient... Là. Par exemple, pour schématiser... Si je me pose la question, est-ce qu'il y a eu un progrès depuis Abraham jusqu'à moi ? Je vais me prendre moi pour plus moral qu'Abraham ? C'est tout, ça suffit. C'est clair ? C'est-à-dire il y a eu un temps de lumière morale On a admis, la conscience universelle a admis, le bien c'est le bien, le mal c'est le mal. Bon, mais ça a disparu. C'est fini. Lisez les éditoriaux des journaux. Là, le génie qui est employé pour falsifier les choses dont on parle. Lisez surtout les éditoriaux des hebdomadaires. L'Express, le Nouvel Observateur, Le Point, les machins comme ça. Ils changent d'avis plus que moi je change de costume par jour. Vous suivez ça de mois en mois et vous voyez à quel point c'est une civilisation qui n'a plus de critères de vérité. A n'est plus A, B n'est plus B, et R, B, C, D. Donc, bon. Il y a une autre question.
Attends, je corrige.
Même aujourd'hui, je vous ai donné deux dimensions différentes. Pas la civilisation contemporaine. Je n'ai pas parlé d'Israël. C'est une problématique qui nous est donnée au point de départ de notre histoire. Et puis l'histoire a montré que c'est l'autre éventualité qui arrive. Tiens. C'est ce texte qu'on avait fait l'année dernière. Oui. D'ailleurs, vous le ferez, ce texte-là, probablement, quand vous saurez un peu plus lire. Il y avait une problématique de deux éventualités. Ou bien on mérite, ça vient dans la transfiguration, ou bien on mérite pas, ça vient, mais dans les catastrophes. Et on s'aperçoit que déjà chez les prophètes, et ensuite chez les talmudistes, les kabbalistes, etc., l'accent est mis de plus en plus sur la perspective catastrophique. Et finalement, l'histoire du monde le confirme. Okay. Encore une fois, à n'importe quel moment, tout peut s'arranger. Mais il faut être mystique pour croire à ça. C'est-à-dire, raisonnablement, la civilisation contemporaine va à sa perte, raisonnablement. Alors il faut faire appel à des intuitions mystiques pour se dire que peut-être que Dieu va faire un miracle. Okay. C'est clair? Ah mais ça c'est autre chose, ça s'appelle Israël. Ça.
Nous la traitons difficilement en ce moment.
Oui, malheureusement, je dirais. Et je vous parlerai beaucoup de cela. Méfiez-vous du mysticisme. Parce que c'est tellement sérieux qu'il ne faut pas confier ça au mystique. En particulier, c'est un problème de capacité subjective. Mais en particulier, énormément de gens prennent des désordres psychologiques pour du mysticisme. Méfiez-vous. Hein. C'est clair. Il se passe pas une année où j'ai pas des gens. En général, ils ont une allure angélique comme ça qui viennent me voir au bout de 2 heures. Ah, vous, au moins, vous pouvez comprendre. Ah, bon, je vous raconter un exemple. Quoi ? Eh bien, voilà, je suis le roi David. Alors, premièrement, il faut garder son sérieux. Alors, je l'ai dit à celui qui m'a dit je suis le roi David, mais alors, il y a toute une collection comme ça. Bon, le Messie, c'est 90%, mais les autres, c'est divers et avarié. Alors en tout cas, alors j'ai dit, tu veux pas combien de temps savoir depuis combien de temps je t'attends. Il y a un verset des psaumes, j'arrive pas à comprendre, tu vas me l'expliquer. Il me regarde, il me dit quoi, il faut que je connaisse aussi les psaumes. Alors j'ai dit, t'es le roi David ou pas? 2 heures après, ça s'est arrangé, il avait l'adresse d'un médecin. Ça va mieux. Donc, méfiez-vous de ça. Hein. Le mysticisme, en tout cas, à votre âge, c'est pas sérieux. À votre âge, c'est pas sérieux. Okay. Attendez d'avoir l'âge. Quand on a 20 ans et qu'on est mystique, c'est peut-être tout simplement qu'on a 20 ans. Hein. Vous avez compris? Alors, vous avez le droit, d'ailleurs, ça fait du bien, d'écrire de temps en temps des poèmes mystiques, comme ça vous dégagez de ces problèmes. Mais méfiez-vous, il y a une frontière tellement mal tracée entre la vie psychologique désordonnée et la mystique, méfiez-vous. Okay. C'est clair? Ne cherchez pas un signe de la venue du Messie. Si en sortant en plein hiver, vous allez trouver une pâquerette. Vous allez dire, ah, il est là. Ça, il faut prendre des cachets. Qu'est-ce que tu veux dire? J'avais un professeur de lettres au lycée. il y a longtemps. Alors, il nous disait ça d'une autre manière. Il disait, voilà, si on écrit des vers à 17 ans, c'est qu'on a 17 ans. Si on écrit des vers à 70 ans, c'est que peut-être on est poète. Vous comprenez ce qu'il veut dire. Alors, retenez ça comme ça. Alors, vous avez des 17 ans, Baruch HaShem, comme disent les mystiques, profitez de vos 17 ans. Qu'est-ce que vous allez vous casser la tête avec des histoires de 77 ans? Ça va? Qu'est-ce que tu voulais dire?
Il disait que les courants, les sages, il y a beaucoup d'écoles du judaïsme qui tendent vers le mysticisme, c'est-à-dire que l'explication de la Torah qui est plus ou moins mystique.
J'ai dit ça comme ça? Moi j'ai dit ou
non,
tu
non,
dis?
Non, je dis que...
Par exemple, je vous donne un exemple de la mystique néfaste. Alors qu'au bout de 2000 ans, il y a la Jérusalem terrestre, duquel tous les textes ont parlé, on se met à parler de la Jérusalem céleste. Ça, c'est la mystique néfaste. D'abord, la Jérusalem céleste. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'ils savent ce que c'est? Okay. Mais tout simplement, ça leur sert d'alibi pour ne pas venir construire la Jérusalem terrestre. Vous comprenez? Alors, on vous dit ça avec des airs pieux. Comme s'il fallait avoir des airs de sorcier pour être normal. C'est pas normal qu'un juif vienne à Jérusalem. Non, il faut s'habiller avec un air pieux comme ça, et triste. Alors méfiez-vous de ces mystiques-là. Vous faire.
Pourtant, ce sont des juifs authentiques aussi.
Qu'est-ce qu'ils appellent les juifs authentiques? Leur mère est née juive, ils sont authentiques.
C'est pas ça.
J'ai bien compris. Qu'est-ce que ça veut dire un juif authentique? Mais le premier commandement de la Torah, c'est quoi? Ce que Abraham a entendu de Dieu. Quitte ton pays et va là où je te donne rendez-vous. C'est la première chose que Dieu a dit à Abraham. Quitte Sorcelles et ne t'arrête pas à trifouiller les oies. Et tu arrives là-bas, et là-bas je te dirai le reste. C'est la première chose qu'il y a. Okay. Alors on ne dit pas c'est des juifs authentiques, c'est des juifs. C'est des juifs à plaindre. Vous connaissez la loi scout, la loi des éclaireurs. L'éclaireur israélite est bon pour les juifs et n'abîme pas les plantes. C'est pas exactement comme ça. Donc, ne dites pas de mal des juifs. Hein. Mais il faut être un peu sérieux. Pendant 2000 ans, ces juifs ont prié, ramène-nous. Alors voilà, maintenant il suffit de prendre un billet d'Alan. Alors a posteriori, de quoi on parlait? C'est clair? Alors on s'occupe de cache-route. Mais comme je vous ai dit, c'est une cache-route en deux mots. Ça cache la route. Cache-route. Je vais vous raconter une blague israélienne. Il y a un jour, un juif qui a décidé d'aller prier au Kotel tous les jours pour gagner la loterie. D'aller prier au Kotel pour gagner la loterie. Ça a duré 3 ans. À la fin, un ange a dit au bon Dieu, patron, aie pitié de lui, 3 ans, donne-lui. Le bon Dieu qui lui a répondu, et s'il prenait un billet Vous avez compris la logique de l'histoire. Bon, on reviendra sur tous ces problèmes. Non, je sais très bien que vous allez avoir un gros problème avec ces juifs authentiques, parce que tout ce que vous allez apprendre, ça risque de les mettre en question, et comme vous les aimez bien, ça vous gêne. Mais c'est leur problème, c'est pas le vôtre.